Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France. Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous parlerons de deux monstres sacrés. Nous irons en Italie, dans une cachette, mais aussi en Suisse, avec une petite surprise. Françoise Sagan et sa compagne Peggy Roche sont à l'honneur du premier roman de Marie-Ève Lacasse. L'auteure québécoise raconte la vie tumultueuse de ce couple très discret. Le printemps est arrivé et nous vous conseillerons des livres de poche pour vos lectures du week-end. Simonetta Greggio et Christophe Boltanski font l'événement en librairie dans le rayon poche. Et puis nous rendrons hommage à Jacques Prévert en texte et en musique avec Françoise Canetti, mais aussi avec Daniel Gassiglia-Laster. En ce début avril, nous commémorons les 40 ans de la mort de Prévert. Nous irons aussi en Suisse avec un artiste surprise qui lui a rendu hommage cette semaine.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. En Suisse, c'est le retour de Laura Sanchez, libraire à Genève, dans la librairie du Boulevard. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Fort bien.
Fort bien, très bien. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes notre licorne, comme dans Tintin. Oui. Dans Tintin, il y a une licorne chez nous aussi. Libraire à Bruxelles, dans la librairie du même nom, la librairie de la licorne.
Oui.
Billy Robinson est au Canada, à Montréal, dans la librairie de Verdun. Bonjour Billy.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Très très bien.
Très bien. Et c'est Mathieu Colombe qui est en France cette semaine, depuis Aix-en-Provence, libraire dans la librairie Goulard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Et on salue nos amis de France Bleu Provence qui nous permettent cette liaison aujourd'hui. Nous rendrons hommage tout à l'heure en texte et en musique à Jacques Prévert, avec Françoise Canetti et Daniel Gassiglia-Laster, et aussi un chanteur invité surprise, vous verrez tout à l'heure. On commence toujours cette émission par une histoire personnelle, une anecdote étonnante. Voici une petite histoire bretonne de Jacques Prévert, un peu comme s'il était avec nous, une séquence improbable, complètement improbable. Quelle est votre histoire, Jacques ?
Eh bien... un clochard, pas un clochard, parce qu'il n'y en a pas par là, c'est autre chose. C'est un vieux de la marine qui vivait sur le four du boulanger. Et alors, Flâneur, il s'appelait. Et souvent, on sortait avec lui. Et puis une fois, on l'a emmené à Brest. Il y avait 10 années qu'il n'était pas allé à Brest. Il était content comme tout. Mais il ne voulait pas être invité, il ne voulait pas être en reste avec nous. Alors il avait amené son crabe. Il était à la cuisine du restaurant, il a dit, faites-moi cuire ça, pour ces messieurs qui mangent avec moi.
Une histoire de générosité, touchante sur un fond poétique, une histoire qui date de 1964. Bonjour Françoise Canetti.
Bonjour.
Prévert aimait les rencontres, c'est toute sa vie ça les rencontres.
Oui, 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 toute sa vie. Et puis c'était un touche-à-tout magnifique. C'était quelqu'un qui était polyvalent, qui passait de la chanson à la poésie, au dialogue de cinéma, au collage. Et je trouve que Prévert illustre très très bien l'homme d'aujourd'hui.
Il en sera question tout à l'heure. Jacques Prévert est dans la librairie francophone cette semaine, ou presque. Et bonjour Marie-Ève Lacasse.
Bonjour.
Vous êtes une auteure québécoise, française d'adoption, puisque vous vivez en France depuis de nombreuses années. Peggy dans les phares est votre premier roman. Vous vous attaquez à un monument de la littérature francophone, Françoise Sagan, à travers le personnage de Peggy Roche, qui fut sa compagne. Qui était vraiment Peggy Roche ?
Peggy Roche était mannequin, journaliste de mode, rédactrice, styliste. C'était une femme aussi assez mondaine du Paris de Saint-Germain-des-Prés des années 50, 60, 70. Mmh. Et puis elle a surtout partagé la vie de Françoise Sagan pendant une vingtaine d'années.
Alors votre roman récit commence en 1985, au retour d'un voyage présidentiel avec François Mitterrand. C'est absolument surréaliste, car les Français connaissent bien cette histoire. Elle doit rentrer en urgence de ce voyage, au bord de la mort, elle est dans le coma, après une overdose. Et il faut savoir que ce voyage se déroulait en Colombie.
Oui, effectivement, Françoise Sagan a fait une overdose en Colombie et lorsqu'elle est rapatriée...
Rien qu'à dire ça, c'est... C'est improbable.
C'est vrai qu'à l'époque, on avait dit qu'elle avait souffert du mal de l'altitude, mais officiellement, c'était pas tout à fait, enfin plutôt officieusement, c'était pas tout à fait ça. Et donc, en effet, elle est rapatriée en France dans un avion spécial qui s'appelle le Mystère 50.
Ouais.
Et puis, elle est hospitalisée au Val-de-Grâce pendant quelques jours. Et donc, Peggy Roche va rester à son chevet pour la soigner et l'épauler pendant cette convalescence.
Alors, c'est un roman, hein, son histoire, sa vie est un roman, parce que on sait très bien que Françoise Sagan a des accointances comme ça avec la drogue, avec l'alcool, et François Mitterrand choisit la Colombie pour l'emmener en voyage. Enfin, c'est incroyable. Et donc, elle est rapatriée aux frais du contribuable. Ça va faire un scandale absolu en France. Et voilà, la vie de Sagan, c'est un roman. Comme ça tout le temps, et vous le décrivez comme ça tout au long du livre.
Oui, c'est un livre, bien sûr, sur François Sagan, mais c'est surtout un roman sur Peggy Roche, qui a aussi une vie romanesque, pour ne pas dire saganesque. Et c'est vrai qu'en recueillant des témoignages, en me documentant, finalement, le roman était là. Il surgissait par ces simples témoignages. Il ne restait plus qu'à l'écrire, au fond.
Et votre roman fait des allers-retours dans la vie de Sagan, mais aussi dans celle des personnages qui l'entourent. Pourquoi avez-vous choisi un récit fragmenté, comme ça, avec des changements d'époque permanents? On passe de 85 aux années 60, on retourne dans les années 40, les années 50. Il y a des allers-retours tout le temps.
Parce que je voulais bousculer un petit peu le lecteur pour qu'il n'ait pas l'impression d'être dans une biographie chronologique. Donc, en utilisant comme ça les alternances narratives, j'étais certaine de plonger tout de suite le lecteur dans une ambiance de roman.
Laura Sanchez est en Suisse, elle veut justement réagir à ce propos. Laura, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, moi j'ai trouvé que chaque chapitre était très visuel et les ambiances sont très réussies. C'est presque cinématographique. Mais, comme vous en avez parlé, moi j'ai eu du mal avec cette structure générale du livre, les sauts temporels, les changements de point de vue, ça m'a souvent perdue et puis à mon avis, ça noie un peu le propos. Et du coup, un peu à l'image de Peggy Roche qui est régulièrement cachée par Françoise Sagan et même dans ce roman censé enfin la mettre en lumière.
Mathieu Colombe est en France et il n'est pas du tout d'accord, Mathieu, depuis Aix-en-Provence.
Mais alors vraiment pas, parce que pour moi, au contraire, la construction, c'est une véritable réussite. Je trouve qu'on la suit comme les volutes de la fumée d'une cigarette, on avale les chapitres sans s'en rendre compte. En plus, cette histoire d'amour, elle est magnifique, elle est poignante, elle est terrible, et en plus, c'est aussi une histoire de soumission, je trouve ça très très beau. Et en plus, je trouve qu'il est très logique que quelque part, Peggy soit un peu effacée par rapport à Françoise, puisque c'était déjà le cas dans leur vie.
Une histoire de soumission, vous êtes d'accord, Marie-Ève Lacasse ?
C'est une histoire très complexe de soumission, je ne sais pas, parce que je pense que Peggy aurait voulu être un peu plus dans la lumière donc elle s'est sans doute rebellée d'une certaine manière avec ses propres stratégies pour se dérober à cette soumission. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Et par ailleurs, sur la construction elle-même, c'est vrai que c'est une construction kaléidoscopique ou en tout cas impressionniste, parce que c'est très difficile au fond d'avoir une objectivité ou enfin même une intuition de vérité sur une trajectoire. Et donc cette multiplicité des points de vue, à mon sens, donnait plus de vérité qu'une fresque presque comme en miroir, en quelque sorte.
Oui, puis ce n'est pas une biographie, surtout.
Non.
Oui, c'est ça. On va écouter le son du monde de la semaine. Le principe, une musique habillée d'une voix. Deux voix cette semaine, celle de Juliette Gréco et de Françoise Sagan. On a retrouvé dans notre grenier à son des témoignages, plusieurs, qui racontent la vraie vie de Sagan. Et c'est en musique. Écoutez.
Il passait dans tes yeux quand tu balançais quelque chose que j'ignorais, un regret, un oubli, oui mais de qui?
C'est très douloureux d'écrire pour elle. Moi je l'ai vue travailler, je l'ai vue travailler cet été, elle s'enferme, elle écrit 5 heures. On l'entendait taper la machine, tac, 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 pendant 5 heures. Elle n'arrête pas. Elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. Et tout à coup, on la voit descendre absolument ruisselante, ruisselante, trempée et blême. Avec un visage tout mou, tout creusé, un visage totalement différent.
J'ai toujours espéré écrire parce que, d'une part, j'adorais les livres. Et deuxièmement, je ne vois pas très bien ce que j'aurais su faire d'autre. Je ne suis pas très habile. C'est une occasion pour moi de me raccrocher à la réalité, parce que j'ai une vie plutôt distraite et insouciante, et je ne fais rien, je me promène tout le temps. La vie est facile, factuellement, et de temps en temps, j'ai besoin de me battre, de me colter avec quelque chose de réel. Et la réalité, ça devient la fiction, ça devient la difficulté d'écrire.
Thank you.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un peu vécu une vie de patachon ?
Oh oui, enfin un patachon travailleur. C'est assez rare le patachon qui travaille.
J'aime les boîtes de nuit, j'aime les gens qui y sont, j'aime boire, j'aime danser, j'aime faire des bêtises, j'aime en dire. Je n'ai pas commencé à vivre comme un crouton parce que je suis soi-disant une intellectuelle, ça me fatigue.
Patachon travailleur, qui ne vit pas comme un crouton. Là, cette voix de Françoise Sagan que vous avez reconnue, celle de Juliette Gréco hein, au tout début, qui chante une chanson de Sagan. Dans votre roman Marie-Ève Lacasse, parmi les personnages, il y a le fils de Françoise Sagan, Denis, en partie élevé par Peggy Roche, qui se plaint d'ailleurs que l'on résume Françoise Sagan à ses frasques. Pourtant, elles étaient assumées. Ces frasques, cette vie de patachon, comme elle dit, sauf Peggy, qui a un peu de mal hein, avec les affaires de drogue notamment.
Oui, et d'ailleurs pour réagir sur la phrase de Juliette Gréco, je pense que lorsqu'elle décrit le visage émacié, c'est quand même tous les symptômes de quelqu'un qui est en sevrage forcé. Je suis contente de pouvoir réagir enfin sur cet extrait que je connaissais déjà, et par ailleurs, juste pour ajouter sur Juliette Gréco, elle lui ressemblait physiquement à Peggy Roche, donc il y avait une rivalité entre ces deux femmes. Et oui, en effet, Peggy Roche, qui était quelqu'un de très bienveillant et de très protecteur auprès de Sagan, n'a jamais encouragé la prise de stupéfiants de Françoise Sagan. Elle s'y opposait, elle chassait aussi les dealers dans les soirées. Enfin, c'est quelqu'un qui, bien sûr, aimait la fête. C'était pas une bonne sœur, hein. Elle adorait le champagne, elle faisait beaucoup la fête, mais par contre la drogue...
Elle se détruit avec l'alcool. Hein,
elle se détruit avec l'alcool et les cigarettes et la nuit. Ouais. Mais par contre, la drogue, non. Jamais.
Vous écrivez dans votre livre « Depuis que je te connais, je vis dans l'inquiétude de te perdre. Pour la drogue, des hommes fantasques, des femmes bouleversantes qui t'emmènent ailleurs, là où je n'ai pas accès. Il y a les rivages poétiques qui ne m'ont jamais enchanté, les bals somptueux où je n'ai pas mes entrées, la rivalité vénéneuse d'un papier imbibé sous la langue et la complicité des piqûres que je n'ai jamais voulu partager. Je suis toujours arrivé à me frayer un chemin jusqu'à toi, conservant, comme je le peux, une dignité impériale.
Oui, je pense que Peggy Roche se sentait mise à l'écart en permanence de la vie de Françoise Sagan, déjà une mise à l'écart mondaine. Donc il y a d'autres scènes dans le livre où par exemple des photographes lui demandent de sortir du cadre, de sortir du champ. Donc elle se sent mise à l'écart dans ces contextes-là. Elle se sent aussi peut-être dans une mise à l'écart plus intime, notamment dans des circonstances assez intellectuelles où Peggy Roche n'aime pas tellement la lecture, elle ne s'intéresse pas tellement à la littérature.
C'est ce qui attire Sagan d'ailleurs. Et
tout à fait,
parce que du coup, voilà, elle est hors milieu.
Oui, et Peggy Roche la touche sur des domaines plus étonnants, par exemple la question de la beauté, du style, de l'esthétique, de la mode, qui sont des préoccupations peut-être un peu plus refoulées pour Françoise Sagan, et Peggy Roche s'installe sur ce terrain-là.
La rencontre entre Sagan et Peggy Roche met du temps à se faire. Vous le décrivez tout ça dans ce livre. Peggy est fascinée par Sagan et elle l'observe à Paris, à Saint-Tropez. Il faut savoir qu'elle fréquente les mêmes lieux, presque les mêmes personnes aussi. Et elle suit sa vie tout le temps à travers les journaux, à travers la radio. C'est presque une traque amoureuse, ça.
Une traque amoureuse, je ne sais pas. En tout cas, c'est une longue attente qui a peut-être aussi motivé et qui explique la longévité par la suite de cette histoire
qui a été
longue.
Ouais. Quasiment 20 ans. Hein.
Oui.
Quasiment. Deux autres libraires ont lu votre premier roman, Marie-Ève Lacasse, Belgique ou Canada ? On commence par qui ?
Au Canada.
Canada, bien sûr. Billy Robinson.
Oui, ce qui est remarquable de ce roman, c'est que malgré toute la tendresse et la sensualité le racontée dans une si belle histoire d'amour, vous dépeignez là, très bien d'ailleurs toute cette solitude, cette douleur même. Malgré que ce soit Peggy qui nous parle, elle demeure toujours en retrait. C'est sensuel, c'est beau, c'est écrit avec beaucoup de style et d'élégance et j'ai été complètement charmé.
Voilà, Marie-Ève sourit.
Oui, c'est très agréable.
C'est très agréable. Attendez, c'est pas fini. Déborah Damblon est en Belgique. Êtes-vous d'accord, Déborah ?
Plutôt oui. Ah. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé retrouver Françoise Sagan et puis me remémorer ses romans parce que je les ai adorés. Je les ai lus, je les ai relus. Alors, comme Laura, j'ai quand même un peu de peine de pas avoir plus rencontré Peggy. J'aurais pour une fois voulu la voir moins effacée, même si Mathieu a raison, hein, elle était probablement comme ça dans la vie. Il y a pourtant quelque chose qui m'a un petit peu chiffonnée, c'est de me retrouver malgré tout avec une curiosité un peu people qui a été éveillée et je l'ai sentie un peu loin de la littérature.
Il y a beaucoup de sensualité, hein, c'est vrai, Billy Robinson en parlait, la sensualité mais surtout la liberté. On aime hommes et femmes sans distinction, ce n'est pas le corps qui compte. La bisexualité est commune et admise, peut-être encore plus qu'aujourd'hui.
non ?
Je ne sais pas si elle est admise, je pense qu'elle est assez secrète.
Elle est fréquente en tout cas.
Elle est fréquente dans ce milieu, mais elle n'est pas tellement dite. Mmh. Elle est confinée à certains lieux de nuit, certains bars. L'homosexualité féminine est assez tabou.
D'où la discrétion, c'est ça, dans cette relation ?
Je pense.
Qui a duré 20 ans ?
Oui, je pense que c'est lié à l'homosexualité, bien sûr, mais aussi au caractère très précieux de cette histoire, parce que François Sagan était quand même très regardé par les médias, vous l'avez dit, et pour préserver le caractère riche et secret de cette histoire, sans doute qu'elle a voulu garder les choses un peu à distance.
Elle a tout supporté de Sagan, Peggy Roche ?
Non. Non, il y a quelques tromperies de trop, entre guillemets, pense que Peggy Roche a souffert de jalousie énormément.
Merci beaucoup Marie-Ève Lacasse. Merci infiniment. Peggy dans les phares est paru aux éditions Flammarion. C'est votre premier roman. Vous aviez déjà publié au Québec comme ça, mais sous un autre nom, dans une autre vie. Voilà, c'est le premier vrai roman. On vous souhaite bonne chance en France, en Suisse, en Belgique et dans votre pays natal, le Québec évidemment, avec ce livre. Merci Marie-Ève.
Merci beaucoup.
Et voici le tout nouveau titre de Gaël Faye, l'auteur de Petit Pays, le prix Goncourt des lycéens, revient sur la scène musicale avec Irruption dans la librairie francophone.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoules ou bien nègres. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fait condé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans et limé par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60. Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous, on pend Peter Pan, on va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage. Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui font une choix pendant ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en irruption spontanée.
Gaël Faye avec Irruption, c'est tout nouveau et c'est dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule ou leur coup de cœur, c'est au choix. Et on commence avec un coup de gueule en Suisse, je crois, Laura Sanchez.
Mais oui, Emmanuel, au sujet des livres qui sortent en librairie, mais je parle ici de l'objet livre. Mmh. Avez-vous remarqué qu'on nous propose aujourd'hui énormément de livres de très mauvaise qualité ? Alors, moi, ça me frappe surtout du côté des sciences humaines, je m'explique. Le papier est très fin, et du coup, le confort de lecture en est très mauvais. Et puis surtout, ces livres ne sont presque plus cousus et collés, mais simplement collés, et ça les rend beaucoup moins solides. Mmh. Donc, ça voudrait dire que les livres sont eux aussi victimes d'obsolescence programmée.
Ouais.
Alors, sont-ils moins chers pour autant ? Mais non, voyons, mais non. Vous n'y pensez pas.
Non, mais c'est vrai que c'est dangereux, parce que comme il y a le numérique derrière, il faut défendre l'objet livre, c'est
exactement.
Très important. Et je peux rajouter quelque chose, Laura, c'est qu'il y a pire, je dirais, c'est qu'en dehors de la qualité, alors c'est lié à la qualité évidemment, mais il y a des éditions, des maisons d'édition que je ne vais pas citer, qui publient des livres qui jaunissent très vite. En un an, ils sont tout jaunes. J'en ai un sur la table, mais ça arrive. Donc voilà. Donc bon, faites attention, chers éditeurs, c'est très important le livre. Merci Laura. Billy Robinson est au Canada. Coup de gueule ou coup de cœur, Billy ?
Coup de gueule aussi. Alors, assez là, les livres pour filles, les cahiers d'activités pour les garçons, les histoires pour fistons ou comptines pour fillettes. Terminer les livres à couverture rose ou bleue. Encore pire, proposer une double édition du même titre, l'une de couleur rose et l'autre bleue. Pourquoi y aurait-il pas des titres qui pourraient plaire autant aux garçons qu'aux filles? Alors, jetez plutôt un œil aux éditions là, qui vont délibérément là, contre ce courant, tellement vieux jeu. Mm-hmm. Alors, regardez les éditions Talent Haut ou encore consultez un site comme Kaleidoscope, créé au Québec, ou parlez à vos libraires qui sauront bien vous éclairer là, sur des livres drôles, intelligents, qui aspire à un monde égalitaire et qui bouscule les idées reçues.
Voilà, et la théorie du genre, c'est terminé, il faut le rappeler. Merci beaucoup, Billy. Dans l'actualité des livres de poche à présent, pour vos lectures printanières économes, on vous conseille le dernier roman de Simonetta Greggio. L'auteure italienne francophone a publié Black Messi. Elle était dans la librairie pour le présenter lors de sa sortie chez Stock. En voici un petit florilège qui monte jusqu'au fou rire. Écoutez. Et bonjour Simonetta Greggio.
Bonjour.
Vous êtes une habituée de cette émission depuis 10 ans, quasiment.
Je l'adore, et il faut croire que c'est un peu réciproque.
C'est réciproque. Vous venez de publier Black Messi aux éditions Stock. C'est sans doute le roman le plus complexe que vous avez écrit. Nous sommes à Florence et vous évoquez le monstre de Florence qui aurait tué 7 couples entre 1968 et 1985.
C'était le premier tueur en série européen, en fait. Et à l'époque, on était tellement nuls qu'on savait... Alors, l'ADN, c'était à venir. Mais on était nuls même pour le stab ou pour les empreintes ou tout ça. Mais à tel point que même des chaussures, vous savez, même Sherlock Holmes était en avance sur nous.
Oui, parce que la justice italienne n'a jamais arrêté le coupable.
Non, ils ont arrêté un vieux type absolument monstrueux parce qu'il avait un inceste avec ses enfants. Enfin, il était vraiment, c'était un type affreux, mais c'était probablement pas lui.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de base de données nationale d'ADN en Italie, en tout cas à l'époque il n'y avait pas.
Et encore maintenant d'ailleurs.
Ah, encore maintenant.
Encore maintenant il n'y a pas de banque de données parce qu'il y a la legge de la privacy, donc la privacy italienne qui empêche la mise en route de cette banque d'empreintes génétiques. Ouais. Je ne sais pas comment ils se débrouillent.
Et alors cette histoire de tueur en série, apparemment elle aurait inspiré le silence des agneaux et le terrible Hannibal Lecter, c'est vrai ça ?
C'est plutôt Thomas Harris avait été au premier procès et il avait écrit l'un de ses premiers livres, je crois son tout premier, qui était Black Sunday.
Mm-hmm. Ouais. Et vous êtes mis un peu dans l'ambiance, dans la peau de l'auteur du Silence des agneaux, un peu dans la peau des enquêteurs. C'est un mélange de tout ça, votre roman.
Mais j'aime infiniment les romans noirs. Ouais. J'aime les polars, j'aime les thrillers.
Là, c'est pire que ça encore. Hein.
C'est un vrai noir. C'est un noir, vous savez, soulage, plus noir que noir.
Ouais, un noir soulage, mais c'est vrai.
Et moi, je me mets dans la peau du personnage, je me mets dans la peau du tueur. Et c'est vrai que pour moi, le fait d'écrire un noir, c'est essayer de mettre les mains dans les cambouis du mal. Et c'est comme une catharsis. En fait, tout ce qui est noir, tout ce qui est hémoglobine, finalement, ça vous renvoie à la lumière. C'est ça qui est intéressant dans le noir.
Les tueurs en série ont-ils toujours conscience de leurs actes ?
Je pense que oui. C'est sans doute. Et même, c'est ça qui les fait jouir. Plus c'est sanglant, et plus la cruauté est là, et plus ils sont vraiment dans leur ouvrage.
À un moment, l'un de vos personnages dit qu'en Italie, il y a 28 disparitions par jour. Depuis 1974, plus de 25 000 personnes n'ont pas été retrouvées.
Mais vous savez, depuis 2 ans, il y a 10 000 enfants qui ont disparu.
10 000 ?
Oui, en Europe. C'est pas qu'en Italie, mais beaucoup en Italie aussi. Et il y a en ce moment une traite de mineurs qui est absolument fantastique. Ça. Et je pense que là derrière, il doit y avoir des choses vraiment
terribles,
dégueulasses.
Ouais. Ouais. Et on ne dit rien en fait. On en parle très peu.
Mais on en parle très peu parce que je pense qu'il y a une sorte de mur, vous savez, de mur de verre, comme si ça arrivait aux autres. Mais les autres, c'est nous.
Canada oui. ou Suisse, on commence par qui, tiens ? Qui voulez-vous comme libraire ?
Canada.
Canada, Jérémy Laniel.
Eh bien, moi, je m'attendais nullement à ce type de proposition et je dois l'avouer, bon joueur, j'ai quand même été happé par ce livre dont la trame narrative masque une mécanique qui est efficace, qui est prenante. J'ai aimé son ampleur à cette écriture, malgré quelques longueurs qui, je crois, sont inhérentes à l'efficience de l'histoire.
Oui, c'est vrai que c'est un gros bouquin. Laura, pour la Suisse, êtes-vous d'accord ?
Oui, oui, oui. Ce livre est absolument fascinant dans sa forme et terrifiant dans son contenu. Par exemple, je me suis demandé si les liens souterrains entre la grande criminalité et les pouvoirs publics étaient si forts dans la réalité. Ça, c'est un des thèmes de votre livre. Mais en tout cas, vous tapez très fort avec cette histoire. Vous nous livrez une lecture très réaliste d'un de nos pires cauchemars. Pour moi, ça a été un peu éprouvant, je vous l'avoue.
Un peu éprouvant, oui.
Pour moi aussi. C'est vrai.
Mais c'est le premier livre que je lis de vous, Simonetta Greggio. Je crois que je les ai quasiment tous lus. Qui est aussi compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de personnages, des histoires se croisent. Vous partez dans des chapitres avec un mystère absolu. Franchement, parfois, on ne comprend même pas ce que la fin du chapitre. C'est un roman qu'il faut décrypter. C'était ça l'intention ? Devenir un enquêteur nous-mêmes ?
Oui, et puis les enquêteurs dans ce livre sont tellement nuls qu'il faut qu'on leur fasse leur place. Hein.
Mais ça, c'est le boulot de l'auteur, non ?
Mais il fallait qu'il soit nul, parce que comme ça, c'est nous qui allons... Vous savez, c'est ça qui est bon dans un vrai noir, dans un vrai polar, c'est d'être plus intelligent que l'auteur.
Vous avez compris au final tout ce que vous avez écrit ?
Je pense qu'il y a encore des choses qui me restent mystérieuses.
Oui, c'est ça. Hein. Non, mais c'est vrai. Vous
c'est vrai.
Vous êtes un peu emportée, Simonetta.
Et de toute façon, oui, je suis très emportée comme fille. Mais quoi qu'il en soit, oui, elle a raison. Et vous avez tout à fait raison de dire que la criminalité et les pouvoirs publics sont liés et très liés et peut-être même plus que ça.
Il y a Miles, cet homme qui a perdu sa femme, là encore, je ne vous dis pas dans quelles circonstances, c'est un homme noir qui élève sa fille adolescente. Un personnage complexe qui, comme les autres protagonistes, ont des besoins d'hommes. Et c'est vrai que les hommes, dans votre récit, dans cette histoire de tueur en série, ils ont souvent des problèmes avec le sexe.
Non. Ça, non mais ça, c'est vrai, les hommes ont des problèmes avec le sexe.
Non, Simonetta. Ça,
Emmanuel.
Non mais
non, c'est incroyable. C'est...
On peut pas faire un entretien sérieux avec vous aujourd'hui. Non mais voilà la caricature.
Non mais autour d'un noir, vous voulez faire vraiment quelque chose de sérieux autour d'un noir, on va y aller hein.
Autour d'un noir, d'un roman noir. Noir. Oui.
d'un roman noir bien sûr.
Donc c'est un personnage est noir.
Oui. Eh ben oui, bien sûr.
C'est n'importe quoi. Hein.
Mais je suis ravie que ça soit n'importe quoi.
Revenons
parce que
au sexe.
Le roman... Et il y a du rock'n'roll aussi, quand même, Emmanuel. Mais on ne peut pas être sérieux autour de ce livre qui est tellement affreux, de toute façon, qu'on ne peut qu'en rire à la fin, parce que c'est vraiment affreux, je veux dire. Ça fait peur. Moi, ça m'a fait peur,
oui.
De l'écrire. Vous n'avez pas eu peur en le lisant ?
Non.
Oh, ça y est, il a un fou rire, j'y crois pas.
Et le roman de Simonetta Greggio, Black Messi, est paru en poche aux éditions Le Livre de Poche. Autre événement dans l'actualité des sorties en poche, le roman récit de Christophe Boltanski.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Christophe Boltanski.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez La Cache, un roman sur votre famille, sur votre maison de famille. Cette maison, c'était un refuge ?
C'était un refuge pour mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce fut également une forme de refuge pour tous les siens des années après.
Cette maison de famille, la rue de Grenelle, elle a protégé votre grand-père Étienne. Il y avait installé une cache pendant la guerre. C'est le chat qui les trahit parce que le chat va chez le voisin. Il faut savoir qu'à l'époque, les juifs n'ont pas le droit d'avoir d'animaux domestiques. Alors j'ai découvert ça, c'est incroyable. Il va rester 20 mois dissimulé dans sa planque. 20 mois.
Oui, oui, c'est très très long. C'est une histoire que j'ai toujours connue, et en même temps, lui-même n'a jamais raconté ce qu'il a ressenti pendant ces 20 mois. Il n'en a jamais parlé. Mmh. On connaissait des petites anecdotes qui étaient plutôt racontées par des tiers. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'il avait été réellement caché sous le le parquet dans une, cette cavité qui avait été aménagée, mais qui quand même était extrêmement étroite, et qu'il avait passé là 20 mois d'affilée. En fait, il vivait dans un entre-deux,
Un
petit cagibi, au-dessus de cette cavité, de ce trou, et il ne plongeait dans son trou quand il y avait un danger. Quand quelqu'un rentrait, quand il y avait une visite, il y a eu une visite de la
police. Mais il restait à domicile, tout le temps.
Voilà. Mais il ne quittait pas cet entre-deux, qui était un tout petit cagibi sans fenêtre. Et le soir, il regagnait le lit de son épouse.
Dans cette maison, Christophe Boltanski, vous dites qu'on y vivait comme des clochards. Peu de nourriture, même lorsqu'il y avait des invités, vous racontez des repas incroyables, improbables. Une certaine crasse aussi, on se lavait peu. Vous écrivez, ils habitaient un palais et vivaient comme des clochards. Ils ne déjeunaient pas, ils pique-niquaient. Ils mangeaient sur le pouce, ils étaient dans un provisoire perpétuel.
Oui. Alors, ils étaient effectivement très sales, et moi le premier. Alors, mon grand-père était médecin et professeur d'hygiène.
Etienne.
Mais alors, il répétait tout le temps que dans un monde propre, il faut être sale, que c'est une façon de se prémunir contre la maladie, au contraire.
Ça, c'est une grande croyance, effectivement. Dans les années 50 à 70, où on croyait que
plus on la mettait en pratique. Et effectivement, on mangeait pas, qu'il n'y avait jamais rien à bouffer. Pour une raison simple, en fait, c'est que l'autre personnage, ma grand-mère, elle avait eu une polio, avait été frappée par la poliomyélite pendant ses études de médecine. C'était un tout petit être, elle était toute petite, très frêle, pesait une trentaine de kilos. Et pour pouvoir se déplacer, il fallait surtout pas qu'elle grossisse, et donc elle ne mangeait rien. Et on était à peu près soumis au même régime.
Mais alors vous aujourd'hui, Christophe, qui êtes un grand journaliste, un grand reporter d'ailleurs, vous avez couvert des conflits, comment vous héritez de cette partie familiale? Quelles sont vos angoisses, tiens? Quelles sont vos faiblesses?
Je pense que j'ai peur, comme beaucoup de gens de ma famille.
De quoi?
De plein de choses. Je suis très superstitieux. Non, j'ai plein de peur. Mais que j'ai essayé, chacun à notre façon, on a essayé d'exorciser.
Ouais. Hein, donc, votre père avait peur de la guerre nucléaire. Fin du monde. Vous avez peur de la fin du monde, par exemple?
Par exemple, la peur des voisins. C'est un truc très étrange.
Vous avez peur des voisins?
Il y a cette histoire donc que vous avez racontée, donc du chat qui va pisser chez le voisin, et le voisin lui dit en gros, soit vous tuez le chat, soit je vous dénonce aux Allemands. Et donc il va finir, mon grand-père va devoir tuer son chat. Et c'est vrai que cette histoire-là m'a beaucoup marqué. Et donc cette peur de la menace proche, je pense que c'est quelque chose, par exemple, qui est très ancré en moi. Ouais. Je suis devenu en même temps reporter et je vais dans des régions souvent troublées de la planète. Aussi, je pense à cause de ça,
pour exorciser.
Et voilà, remplacer des peurs fantasmées par des peurs bien réelles.
Être confronté à quelque chose. Ouais. Merci beaucoup, Christophe Boltanski. La Cache, prix Femina 2015, est sortie en poche chez Folio. Et dans cette plus grande librairie du monde, on part à présent en Belgique avec le coup de gueule de Déborah Damblon. Il n'y a que des coups de gueule aujourd'hui, c'est terrible.
Ouais, mais non, c'est pas un vrai coup de gueule, c'est un petit coup de ronchon, quoi. Allez, un coup de dépit.
Un coup de ronchon.
Parce que, voilà, puisqu'on parle de livres de poche, eh bien, moi, je regrette que les polars soient à la mode. Donc, il y en a plein qui sortent, mais ils sortent en grand format. Et plus dans des collections bon marché, comme c'était le cas avant avec des polars. Et du coup, il y en a des tas qui n'arrivent pas en poche. Alors comment ils font, ceux qui ont des budgets serrés? Et puis, où elle est la philosophie de la littérature noire, populaire, accessible à tout le monde?
Oui, il faut des livres de poche, mais ça dépend du succès du livre quand il est sorti. Après, il sort éventuellement en poche. C'est compliqué, le monde de l'édition.
Oui, mais s'il n'a pas de chance en poche, il n'a pas de succès.
On est d'accord. Merci Déborah. Mathieu Colomb pour La France, un coup de cœur, je crois, enfin. Incroyable.
Mais oui.
Allons-y.
Mais oui, et en plus, alors, c'est un coup de cœur, c'est aussi ma meilleure vente en littérature francophone.
Ah, c'est pour
ça. C'est le roman. Et c'est le roman de Didier Decoing, Le Bureau des Jardins et des Étangs.
Ah, oui.
Alors, qui est tout à la fois, en fait, un conte initiatique, un voyage de deuil aussi, c'est comme ça que ça commence. On va se promener dans un Japon du XIIe siècle parfaitement bien retranscrit par une écriture absolument ciselée et magnifique. On va littéralement avaler ce bouquin qui, en plus, nous apporte quelque chose parce que c'est un vrai parcours de vie. Honnêtement, c'est certainement le coup de cœur de ces deux derniers mois de la librairie. On le porte beaucoup parce qu'on l'adore.
Très bien, Didier Decoing va être ravi. Il écoute l'émission, on le salue. Le Bureau des Jardins et des Étangs, c'est aux éditions Stock. Didier Decoing qui fait partie de l'Académie Goncourt. Puisqu'on parle de la France, parlons de la France et de l'Outre-mer. Qui sera à l'honneur, l'Outre-mer, la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle en Guadeloupe pour la première fois? Nous serons au Congrès des écrivains de la Caraïbe en public au Mémorial Acte. On vous attend nombreux.
La librairie francophone avec Marie-Ève Lacasse, Simonetta Greggio, Christophe Boltanski, Françoise Canetti et Daniel Gassiglia-Laster pour rendre hommage à Prévert. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. En ce début du mois d'avril, nous commémorons les 40 ans de la disparition de Prévert. Le 11 avril 1977, il nous quittait. Qu'a-t-il véritablement laissé 40 ans plus tard ?
Il a laissé beaucoup de choses. Il a laissé des scénarios extraordinaires. Il a laissé quantité de recueils, des livres avec les photographes. Tous ces livres, tous ces films continuent à être vus, à être lus, parce que Prévert est toujours moderne et parle toujours à beaucoup.
Hommage à Prévert aujourd'hui dans la librairie francophone. Ça sera dans un instant, juste après le tube francophone de la semaine avec le groupe Dionysos et ce titre de 2002 que vous allez forcément reconnaître. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait. When I was a Jedi, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi.
Le groupe Dionysos, Songs for a Jedi sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Françoise Canetti et Daniel Gassiglia-Laster sont avec nous pour les 40 ans de la disparition de Prévert en ce mois d'avril 2017. Un coffret de 3 CD est sorti dans la collection Jacques Canetti présente, un coffret Pléiade est aussi édité par Gallimard et un beau livre sur Prévert et la ville de Paris sort aussi chez Gallimard. Alors dans la Pléiade, Daniel Gassiglia-Laster, vous dites que Prévert peut enseigner dans les écoles et les universités à éviter les consécrations. Son image littéraire n'est pas assez forte ?
Son image littéraire est très forte et je crois qu'il est actuellement enseigné dans les écoles et dans les universités beaucoup plus que quand nous avons publié le premier tome de la Pléiade en 1992.
Donc ça a évolué au fil du temps.
Je pense que ça a évolué et quelquefois peut-être au détriment d'ailleurs de l'image corrosive de Prévert, puisque les élèves apprennent ces textes tout petits sans se rendre compte toujours de ce qu'il peut y avoir comme force force.
Avec des messages dissimulés parfois, sans une côté, double interprétation.
Exactement, son côté contestataire. Alors peut-être l'apprendront-ils plus tard quand justement ils l'étudieront à l'université, parce que l'université commence heureusement à s'intéresser à Jacques Prévert.
Dialogue, récit, collage, prose, poésie, cinéma se côtoient dans son œuvre, se mélange aussi. Il ne se dit pas poète, Jacques Prévert. Il est un artiste libre, hors du temps et hors catégorie.
Alors, il ne se dit pas poète parce qu'il dit que c'est les autres qui doivent décider s'il est ou non poète. Hein. Laisse aux autres dire ce qu'est la poésie. Toi, tu dois la faire. Il aimait citer Garcia Lorca.
Ouais.
Mais bien entendu, lui, il a voulu échapper à tous les genres, puisqu'il a une liberté d'esprit extraordinaire. Il a horreur des étiquettes. Et puis, à partir de 1966, des collages même, des collages en images qui sont magnifiques et que Picasso appréciait beaucoup.
On va reparler des collages tout à l'heure, vous verrez pourquoi. De nombreux artistes ont chanté Prévert, Françoise Canetti, les plus attendus comme les plus improbables. Et c'est Jacques Canetti qui est le premier à proposer les textes de Prévert aux artistes et en faire des disques.
Oui, oui, absolument. En fait, il a commencé, véritablement mon père a commencé à enregistrer les chansons de Prévert avec les frères Jacques en 1949. Alors c'est assez amusant parce que les frères Jacques, à cette époque, étaient à la Rose Rouge et ils jouaient exercice de style de Queneau, donc ils étaient quand même assez loin, enfin, ils n'étaient pas très très loin de Prévert, mais ils n'avaient pas eu l'idée de chanter Prévert. Et mon père vient les titiller avec des textes de Prévert, il commence à chanter les chansons de Prévert, mise en musique par Cosma, et ça commence vraiment à marcher. Et donc, il y a d'autres artistes qui vont chanter Prévert également, Yves Montand, Catherine Sauvage,
Mouloudji
Juliette
aussi.
Greco, Mouloudji, Francis Lemarque, enfin,
Marlène Dietrich également.
Marlène Dietrich, toutes ces chansons, finalement, moi, ce sont des chansons qui sont très proches de moi, puisqu'elles ont bercé mon enfance. Vraiment, j'ai été élevée dans ces chansons.
Mais c'est vrai, Françoise Canetti, que les chansons ont moins de fantaisie que le reste de l'œuvre de Prévert. Comment on l'explique, ça?
Vous trouvez que ça a moins de fantaisie?
Ah oui, bien sûr, les feuilles mortes, par exemple.
Mais il n'y a pas que les feuilles mortes.
Non, il
n'y
a pas que les feuilles mortes. J'ai écouté tout votre coffret. Hein. Je peux vous dire qu'il y a peu de fantaisie, en tout cas par rapport à la dimension qu'il avait, son jeu avec la langue, sa farce aussi. Assez souvent, on retrouve la farce chez Prévert.
Oui. Peut-être que ça vient peut-être aussi de la musique. C'est-à-dire que Prévert était très, 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 très attentif à la musique. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé en réécoutant toutes ces chansons, c'est de voir le soin avec lequel Prévert choisissait ses compositeurs.
Mais alors, c'est vrai que ce sont les musiciens qui sont attirés par la musicalité de ses mots, qui vont mettre en musique des textes. Parce que lui, Prévert, n'écrit pas de chansons. La seule chanson qui a été écrite d'après la musique, c'est cette chanson que tout le monde connaît, un standard de la chanson francophone qui fut interprété par Montand, mais qui fut interprété aussi par un certain Iggy Pop.
C'est une chanson semblait. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Iggy Pop avec Les Feuilles Mortes, succès planétaire, Françoise Canetti.
Absolument, succès planétaire, quand même, Les Feuilles Mortes entre 1947 et 1957 est devenu un succès planétaire, une des trois chansons françaises les plus chantées dans le monde. Et dans ce coffret dont vous parlez, eh bien, j'ai rassemblé quelques-unes des plus belles interprétations. Iggy Pop, qui chante Les Feuilles Mortes, Eva Cassidy, Bennett, Sarah Vaughan, et bien sûr Yves Montand et Cora Vauquer qui l'ont créé au même moment.
Et Bob Dylan avec une interprétation en anglais, une traduction.
Autumn Leaves.
Voilà, qui Autumn transforme Leaves. Un peu le texte.
Hein, oui, tout à fait.
Voilà, on retrouve tous ces artistes, hein, Mouloudji, Juliette Gréco, là encore, hein, Juliette Gréco. Il n'y a pas qu'avec Sagan. Il y a aussi avec Prévert,
avec
qu'elle
Prévert,
a fait beaucoup de choses.
Comment?
Marlène Dietrich, Nougaro, Piaf, et encore, bien sûr, Yves Montand, qui a chanté Prévert, incontournable.
Une valse lente sans musique. Un enfant qui jamais ne rit, un roman que personne ne lit, la mécanique de l'ennui. sans amour, sans vie.
Daniel Gassiglia-Laster, Prévert est admiré par les artistes de son époque, Montand, Picasso, Miro, Calder, Aragon, même René Char, immense poète, un temps pilier des surréalistes, très libre, qui rompt d'ailleurs avec une revue qui avait attaqué Jacques Prévert.
Oui, vous savez, quelquefois, quelques snobs, entre guillemets, vous disent « Oh, Prévert, oui, moi je préfère René Char
oui, ». Oui.
Eh bien, René Char aurait été furieux de les entendre, puisque, en effet, il a rompu avec la revue en Pédocle, parce qu'elle avait attaqué Jacques Prévert.
Quel est le rapport de Prévert avec les surréalistes? Ça a été très tumultueux, ça. Quelle est la vérité, Daniel?
Alors, c'est une belle rencontre qui commence en 1925. Jacques Prévert rencontre par hasard dans un café Robert Desnos, qui va progressivement le présenter à tout le groupe surréaliste auquel il s'intègre. Mmh. Et Jacques Prévert participe aux activités du groupe surréaliste de 1925 à 1930. Sans beaucoup écrire, hein. Il écrit à partir de 1928, mais à l'époque du surréalisme, il écrit très peu.
Il dit que c'est plus un homme de main qu'un homme de plume.
Voilà, c'est lui qui disait à cette époque-là, j'étais plus homme de main qu'homme de plume, parce que c'est vrai qu'il participe aux bagarres, aux scandales des surréalistes.
Mais alors avec Breton, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture parce que Breton est un peu le directeur de conscience, ça l'agace.
Il trouve que Breton devient beaucoup trop autoritaire, et dira-t-il, il parlait toujours de morale, et moi ça m'agaçait qu'on parle toujours de morale.
Alors Prévert est du côté des ouvriers aux droits bafoués, il s'insurge aussi contre la maltraitance animale, la nature abîmée, il conseille de s'unir et au début des années 30, il fait partie de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires. Prévert a une parole très forte, très engagée.
Bien sûr, puisque à partir de 1932, il participe à une petite troupe d'acteurs amateurs qui va dans la rue, sur les lieux de travail des ouvriers, pour les encourager dans leur grève, dans leur révolte, et il en est le principal auteur. Il réagit immédiatement à l'actualité. Il donne les textes à ses amis qui vont le dire comme ça un peu partout.
Et il a un lien très fort avec la ville de Paris parce que toutes ses rencontres, évidemment, tout son combat, il le mène depuis Paris. Paris, dont vous avez fait un livre d'ailleurs qui sort chez Gallimard, Daniel Gassiglia-Laster. On va écouter un autre extrait du coffret Canetti avec ce poème très court qui évoque Paris justement, un poème lu par Jeanne Moreau.
Paris, c'est tout petit. Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Tout le monde s'y rencontre, les montagnes aussi. Même un beau jour, l'une d'elles accoucha d'une souris. Alors en son honneur, les jardiniers tracèrent le parc Montsouris. C'est là sa vraie grandeur, Paris est tout petit.
Françoise Canetti.
Magnifique.
Le parc Montsouris avec l'histoire de la souris, c'est joli.
C'est magnifique.
On va partir tout de suite en Suisse, rejoindre un invité qui est à la Fondation Jan Michalski, où est exposé en ce moment les collages de Jacques Prévert. Vous en parliez tout à l'heure, Daniel Gassiglia-Laster. Les collages de Jacques Prévert qui sont là-bas avec en ligne Christian Olivier, le chanteur des Têtes Raides que vous connaissez tous. Bonjour Christian.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bah ça va.
Bah écoutez, on est
sous le soleil à la Fondation Jan Michalski.
On est ravis de vous avoir en ligne. Vous avez présenté votre concert littéraire autour de Prévert cette semaine dans ce lieu avec Yolande Moreau. Jacques Prévert, c'est une passion qui a inspiré votre travail artistique depuis toujours, avec les Têtes Raides principalement.
Bah ça fait partie des auteurs quand j'ai démarré, moi, quand je me suis mis à lire des bouquins et puis à écrire, voilà. C'est un des premiers auteurs que j'ai mis en musique, hein. Très tôt, voilà, je me suis en tout cas fait happer par les mots, par les mots de Prévert, très très tôt, ouais, bien sûr. Ouais.
Que peut incarner Prévert aujourd'hui pour la nouvelle génération d'artistes dont vous faites partie, Christian Olivier?
Bah, pour moi, de toute façon, c'est une période, je dirais que la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui, là, c'est vraiment une bonne chose, en tout cas, qu'on rentende du Prévert en ce moment, ça va faire du bien à tout le monde, je crois, puisqu'à la fois, c'est quelque chose de très très contemporain, on va dire que dans la période qu'on vit actuellement, redonner à entendre les mots de Prévert, c'est remettre le doigt sur tout un tas de choses, et puis c'est redonner du soleil aussi, puis des sourires et de l'amour dont on a fortement besoin aujourd'hui.
Alors c'est très étonnant, hein, parce que ce spectacle, finalement, il vous était prédestiné, parce que je me souviens, moi, quand j'ai découvert les Têtes Raides, quand j'ai reçu le groupe pour la première fois à la radio, vous étiez venu, on se connaît depuis quelques années maintenant, on va pas dire, sinon ça nous vieillit, mais j'ai pensé tout de suite à Prévert, parce que vos textes, depuis Ginette et tous les autres, c'est exactement ça, c'est la parole, comme ça, libre, engagée, avec un message poétique, avec une formule aussi très populaire.
Ben voilà, c'est la poésie ouverte à tout le monde. Pour moi, c'est avant tout ça. Prévert, je dirais que à la fois, c'est quelque chose de très pointu, très c'est engagé, c'est poétiquement très 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 beau, et en même temps, c'est populaire. Effectivement, c'est accessible à tout le monde. Mais je crois que Prévert, lui, c'est toujours toujours positionné comme ça. Et pour lui, la poésie, c'était pas juste le milieu littéraire, le milieu de la poésie. La poésie, c'est les gens qui sont dans les cafés, qui sont dans la rue, qui il entendait de la poésie partout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est voilà, encore une fois, de refaire entendre du Prévert, c'est remettre la poésie partout où elle se trouve, c'est-à-dire dans la rue, dans les bistrots, dans tous les lieux publics et dans tout, voilà, un peu partout, quoi.
Voilà, il faut être fidèle à ce que vous produisez, à ce que vous portez depuis des années. Félicitations. Merci beaucoup, Christian Olivier.
Merci à vous.
Je vous souhaite un bon week-end en Suisse.
Merci.
Et on va rester en Suisse parce qu'il y a Laura Sanchez qui est à quelques kilomètres de vous à Genève et qui a un mot à dire sur Jacques Prévert. Comment Prévert, d'ailleurs, est-il perçu en librairie, Laura, en Suisse?
Eh bien, c'est un auteur qui est encore très très vivant en librairie, dans de multiples formats, et qui s'adresse effectivement à tous les publics. Moi, j'avais envie de mettre un livre en avant particulièrement, c'est Fatra, paru chez Gallimard en 1966. Ouvrage beaucoup plus confidentiel que Parole, par exemple, mais on y retrouve son écriture ludique et joyeuse, des reproductions de ses collages, mais des textes que je trouve aussi plus graves et qui flirtent avec un délicieux surréalisme. Et c'est disponible, entre autres, chez Folio.
Voilà, chez Folio. Le mot de la fin, c'est pour un autre libraire, Déborah Damblon, en Belgique. À vous de conclure.
Eh bien, chez nous, à de rares exceptions près, quand on nous demande du Prévert, c'est dans le cadre scolaire, et encore, c'est pas très, très, très souvent. C'est Parole, en général, évidemment. Mmh. Mais moi, toute seule, j'ai toujours sous le coup d'un album que j'adore. C'est L'Opéra de la Lune, qui est illustré par Jacqueline Duhem, c'est chez Gallimard. Et vraiment, c'est une merveille, parce qu'il a bercé mon enfance, et puis je l'ai lu des dizaines de fois à mon fiston. Et maintenant, je remarque qu'il enchante encore tous les enfants auxquels on la raconte. Et je trouve que c'est du grand Prévert. C'est insolent, c'est magique, c'est poétique, et puis ça n'a pas pris une ride.
Daniel Gassigliga-Laster, vous êtes d'accord?
Oui, je suis d'accord, et je dirais qu'il faut lire autre chose que Parole. Prévert a écrit beaucoup d'autres livres que Parole. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Joan Miró, difficile à trouver, on le trouve dans le deuxième volume de la Pléiade, ouais, qui est un des textes les plus beaux qu'il ait écrit sur les peintres.
Merci infiniment, Daniel Gassigliga-Laster. C'est une année Prévert, avril 2017, le mois Prévert. Le 11 avril, ce sera les 40 ans de sa disparition. Il y a beaucoup de livres qui sortent en librairie à cette occasion, dont la Pléiade, dont le Paris Prévert, et bien sûr, le coffret CD de Canetti. Merci, mesdames.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec la chanteuse Marie-Flore.
C'était qu'une basse à digitale et j'en retiens que ta main. Rouge et le pétale sur mon lit d'hôpital et tu disais. Promis, on se fait pas de mal, promis. Je vois tes yeux qui plissent, tu sais, c'était un...
Passade digitale, interprétée par Marie-Flore, une jeune chanteuse à retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Ronan Mahé, Djoubaka à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Laure Grand-Besançon en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, donc, nous serons en Guadeloupe, émission en public au Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre, au 5e congrès des écrivains de la Caraïbe. On va vous faire vivre la Guadeloupe avec des écrivains, des artistes et aussi des surprises créoles. Très bonne semaine, bon week-end à vous. Salut.